Radio Kapi. Le journal de 8 heures, présenté par Grace Hamzati Massandi.
Au sommaire de ce journal, depuis les inondations du week-end à Kinshasa, plusieurs quartiers de la capitale sont privés d'eau potable. Le directeur général de la régie des eaux rassure que tout est fait pour que la situation se rétablisse le plus vite possible. Michel Kifindango nous en parle dans quelques instants. La journée mondiale de la santé, c'était hier 7 avril sous le thème « La santé de la naissance pour un futur meilleur ». Pour le ministre de la Santé, ce thème met en lumière l'importance de la prise en charge des nouveau-nés et de leur maman. Notre invité est le chef du département des sciences et gestion de l'environnement de l'université de Kinshasa. Le professeur Thierry Tangou revient sur les dernières inondations à Kinshasa en proposant des pistes et solutions pour prévenir les catastrophes. Mesdames et messieurs, bonjour. Plusieurs quartiers de Kinshasa sont privés d'eau depuis samedi. La régie des eaux rassure que tout est mis en œuvre pour que la situation se rétablisse d'ici 48 à 72 heures. Les usines de la régie des eaux ont été fortement affectées par les inondations survenues dans la ville depuis les pluies diluviennes. Comment se présente la situation actuellement? Les détails avec vous, Michel Kifinda Ngoy.
Sur les 7 usines que compte la régie des eaux dans la ville de Kinshasa, seules 3 ont été interrompues au point d'arrêter totalement les services. Il s'agit des usines d'Enjili, Lemba, Imbu et Lukaya. Celles de Zone, Lukunga, Ngaliema et Maluku n'ont pas connu d'interruption de service et continuent donc à fonctionner normalement. La source de Mitendi et son réseau sont aussi endommagés. Jusqu'au soir d'hier lundi, l'usine de Lemba Imbu est remise en service, affirme le DG de la régie des eaux. David Mutombo ajoute que les travaux se poursuivent à l'usine de la Lukaya, où les premiers essais de mise en service progressive seront effectués ce matin, selon l'évolution du séchage de moteurs. Quant à l'usine d'Enjili, les premiers essais de remise en service progressive interviendront au soir de ce mardi, rassure le DG David Mutombo. Les travaux de récupération de la source de Mitendi sont terminés, mais il faut encore 3 à 5 jours pour changer les traçages de la conduite exposée suite à l'érosion. Pour les personnes qui sont hébergées dans des centres, la régie des eaux a mobilisé les camions-citernes pour y amener de l'eau.
Et au Nord Kivu, le travail est au ralenti depuis bientôt une semaine à la Société Nationale d'Électricité SNEL-SEA, direction de Goma. Et pour cause, la mise en congé technique de la majorité des agents administratifs et journaliers de cette société étatique. Une décision prise et annoncée aux agents le 1er avril dernier par les responsables de la rébellion avec les directeurs provinciaux de cette entreprise. Depuis lors, un service minimum est organisé avec une équipe restreinte, notamment de la technique, pour assurer la continuité des services. Dans un mémorandum adressé au coordonnateur de l'AFC M23 le 3 avril dernier, les agents de la SNEL réclament l'annulation de cette décision de congé technique et de mettre fin à la mégestion au sein de l'entreprise. Des détails avec Élise Kavira.
Ces agents de la SNEL Goma expliquent qu'ils ont été surpris par une décision verbale du directeur de cabinet du gouverneur nommé par la rébellion, ordonnant une mise en congé technique de l'ensemble des agents avec effet immédiat. Cette mesure est dépourvue de toute justification technique et juridique et met en péril le fonctionnement normal de l'entreprise ainsi que les droits de ses travailleurs, disent-ils. Ils ajoutent que leur entité provinciale est opérationnelle et continue à assurer ses missions et services publics. Les agents de la SNEL Goma dénoncent ce qu'ils qualifient de manque criant de leadership dans le chef du directeur provincial intérimaire de la SNEL. Celui-ci est accusé par les agents d'une gestion financière opaque et défaillante, mais aussi du favoritisme dans l'affectation des fonds. Il accorderait une priorité au paiement des fournisseurs au détriment des charges d'exploitation, de maintenance de réseau et de la rémunération des agents. Les agents de la SNEL Goma préviennent l'autorité rebelle que cette mesure risque d'entraîner des graves répercussions sur la qualité du service, la maintenance et la distribution de l'énergie électrique. D'autres sources affirment par contre que toutes les recettes de la SNEL sont récupérées par l'AFC M23 sur autorisation du directeur provincial de cette entreprise.
La santé de la naissance pour un futur meilleur. C'est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la santé le 7 avril. Ce thème reflète parfaitement les priorités du gouvernement congolais d'après le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, qui s'est ainsi exprimé hier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Selon lui, cette initiative met en lumière l'importance de la prise en charge des nouveau-nés et de leur maman, un accès clé des stratégies sanitaires du pays. Le ministre de la Santé publique est au micro de Gloria Lutula et Mudumbi Benjamin.
Cette année, le thème correspond vraiment aux stratégies et aux priorités de notre pays, c'est-à-dire la santé dès la naissance pour un futur meilleur. Nous avons donc lancé la gratuité de la maternité, ça fait déjà plus d'un an, et nous avons déjà plus d'1,5 million mamans et leurs enfants qui ont été pris en charge. Et c'est un programme majeur du gouvernement et qui est en cours avec bien sûr les aléas d'un programme à son début. Mais le résultat est impressionnant parce qu'on a pris en charge 1,5 million mamans gratuitement en charge avec leurs enfants. Et je suis content que cette journée de la santé, le thème soit celui de la santé à la naissance. Parce que nous faisons aujourd'hui face aux urgences, mais ces urgences-là doivent être intégrées dans le futur de notre population, de notre pays.
Retour au Nord Kivu, dans les territoires des Rutshuru, le centre de santé Umoja de Kiwanja offre des soins de santé gratuits aux femmes enceintes, qu'elles soient retournées, déplacées ou résidentes. Cette assistance s'étend également aux enfants de moins de 15 ans, rendue possible grâce au soutien de l'organisation Alima. Cette initiative est vivement saluée par la population locale, en particulier par les femmes enceintes, qui reviennent sans ressources après plus de 2 ans passés dans les camps de déplacés autour de Goma. Des détails avec vous, Jacques-Yves Moulima.
Kwa tunasumbuka, magonjwa tulikuwa nakosa kama tuende kuhospitali haye, tunakuwa vraiment unakosa ndaenda kuhospitali na sina.
Je suis venu très vite en apprenant que les femmes enceintes étaient soignées gratuitement ici, explique cette femme. Comme elle, de nombreuses familles dans la zone récente, un véritable soulagement. Selon Joseph Kisuba, infirmier titulaire du centre de santé Umoja de Kiwanja, la prise en charge gratuite des femmes enceintes a débuté il y a plus d'un mois.
Nous soignons les femmes enceintes gratuitement depuis le début du mois de mars. La procédure est simple, il suffit que la femme soit enceinte, et si elle est enceinte, qu'elle soit doux, qu'elle soit de l'air de santé hors air, qu'elle soit retournée, qu'elle soit déplacée, si elle est enceinte et qu'elle tombe malade, il faut qu'elle vienne se faire soigner au centre de santé gratuitement. C'est grâce au partenaire Alima qui appuie des soins gratuits aux femmes enceintes. Depuis le matin jusqu'au soir, on soigne beaucoup de malades, que les gens puissent venir.
Cette gratuité des soins s'étend également aux accouchements, aux cas référés et au traitement des maladies infantiles pour le moins de 15 ans.
Au Nord Kivu toujours, la coordination territoriale de la société civile de Walikale dénonce le pillage systématique d'au moins 2 structures de santé de son entité. Selon son président, les faits ont eu lieu entre le 3 et le 4 avril dernier dans la zone de santé de Kibua. Tous les matériels administratifs et biomédicaux de l'hôpital général de référence de Kibua et du centre de santé de Munganzi ont été emportés par les présumés rebelles du M23. Le mouvement de ces combattants rebelles qui se dirigent dans leur retraite vers Goma menace de plus en plus la sécurité des civils sur l'axe Walikale-Masisi, dit Fisto Misona. Il plaide en faveur d'une implication du gouvernement. Contactés, les autorités sanitaires confirment et déplorent ces pillages qui, selon elles, affectent les services de soins aux malades. Elles ajoutent qu'à part la zone de santé de Kibua, au moins 9 structures de santé sur les 18 que compte la zone de santé de Walikale avaient aussi été pillées complètement entre le 17 et le 23 mars dernier lors de l'entrée des rebelles du M23 à Walikale Centre. Parlons de la poursuite hier à Lubumbashi de la session de vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire. Cette rencontre rassemble les animateurs des entités territoriales de la province du Haut-Katanga. Organisée par la vice-primature de l'intérieur, cet atelier a pour objectif de mettre à contribution les comités locaux de sécurité pour lutter contre, entre autres, la criminalité. Pour le maire de Kasumbalesa qui y prend part, cette rencontre offre plusieurs bénéfices, notamment pour son entité qui est à la frontière avec la Zambie. Joint par Jean Gandou, André Kapampa revient sur quelques-uns des avantages que la ville de Kasumbalesa va tirer de cette rencontre.
Désormais, il y a un cadre légal qui organise la composition, le fonctionnement de comités locaux de développement parce que jadis, nous étions en train d'évoluer dans ces cadres, mais sur base des us ainsi que des coutumes. Notre avantage, c'est que les approches que nous sommes en train d'apprendre vont nous permettre, outre les zonages en termes de cartographie, de zones criminogènes et des zones qui ne le sont pas, ça va nous permettre de mettre en application des approches d'inclusion de toute la communauté et qu'avec toute la communauté, nous participions même à ces conseils locaux, parce que désormais ça s'étend à plusieurs, autant qu'on soit en conseil restreint ou en conseil élargi. L'avantage de nouveau, c'est que nous qui sommes la frontière et qui connaissons beaucoup de cas de crimes, mettant en œuvre ceci et ayant l'appui du gouvernement central et même provincial, nous serons tout prêts d'atteindre les objectifs de réduire de manière sensible cette criminalité-là. C'est ici l'occasion pour nous de remercier le gouvernement de la République et en ligne de mire Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur.
L'ASBL, Congo Action pour la Diplomatie Agissante, CADA, se réjouit que Kinshasa et Washington soient convenus de la signature d'un accord sur les minerais pour combattre l'insécurité dans l'est de la RDC. Le coordonnateur de cette organisation citoyenne a donné son point de vue dans une déclaration parvenue ce lundi à Radio Kapi. Eric Kamba regrette que certains Congolais s'emploient à entraver cet accord. Il est d'avis que cet accord en gestation serait une manière de diminuer considérablement l'ardeur ou la nuisance des nombreux exploitants illégaux des minerais dans la partie orientale du pays. Eric Kamba au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Signer un accord avec une grande puissance qui sont intéressés par les minerais du Congo pour lesquels ils investissent dans la réhabilitation du corridor de Lobito paraît plus plausible. Ce serait une manière de diminuer considérablement l'ardeur ou la nuisance de plusieurs intervenants illégaux à l'est, étrangers comme nationaux, dans l'exploitation des minerais. En effet, le contrat dont question vaut la peine, ceci dans la mesure où le Congo éprouve encore beaucoup de peines pour se sécuriser et maîtriser le flux de minerais qui y sont extraits par des acteurs divers et qui s'évanouissent par fraude et contrebande avec l'aide des pays voisins, singulièrement le Rwanda et l'Ouganda, en Asie, Europe et en Amérique du Nord. Il s'avère donc que le pillage des ressources naturelles congolaises, quel qu'en soit le moyen, est au centre des guerres qui ravagent le Congo. Il est possible que les minerais riment avec la paix au lieu d'être une malédiction comme c'est le cas en RDC jusque-là, mais pas à n'importe quelle condition.
Par ailleurs, manifestation hier de la société civile dans la cité de Bukama, province du Haut-Lomami. Cette structure dénonce l'incapacité de l'administrateur du territoire à diriger son entité et réclame son départ, signalant que plusieurs commerces et services de l'État sont restés fermés. En réaction, l'autorité de Bukama parle de l'instrumentalisation de la population par certaines autorités du territoire. Paul Munanga.
Dans un mémorandum adressé aux membres du Conseil de sécurité locale du territoire de Bukama, la société civile accuse l'administrateur du territoire, je cite, de semer des troubles dans tous les secteurs de la vie humaine, fin de citation. Augustin Monga Moneka, président de la société civile de Bukama, revient sur quelques griefs portés contre l'autorité de Moba.
Il se comporte en empereur pour intimider sa population. Il a une attitude dictatoriale caractérisée par son intransigeance. Il a la c'est des pouvoirs et demeurant ignorant que dans la gestion administrative, les compétences sont d'attribution. Il a développé davantage l'esprit de chantage parmi ses administrés. Il laisse semer des troubles dans le pouvoir coutumier, sans inquiétude en foulant aux pieds les règles de la loi portant statut de chef coutumier, destituant les ayants droit en faveur des corrupteurs non ayant droit.
Contacté, l'administrateur du territoire de Moba fait savoir qu'il y a une autorité policière qui n'a pas atteint les assignations budgétaires annuelles dans son secteur. Dieudonné Salumu dit avoir établi un rapport à charge de cette autorité. Pour l'administrateur du territoire, c'est cette autorité policière qui décide d'instrumentaliser la société civile contre lui.
Actualité internationale.
Théâtre des combats de plus en plus violents depuis la reprise de Khartoum par l'armée soudanaise le mois dernier. El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, assiégée depuis près d'un an par les FSR, connaît une situation humanitaire catastrophique. Alors que le gouvernement soudanais a pour la première fois indirectement reconnu l'existence d'une famine dans le cas des réfugiés des Zamzam qui se trouvent juste à côté, il appelle l'ONU à intervenir pour y ouvrir des couloirs humanitaires.
L'invité.
Les constructions anarchiques sur les lits des rivières et cours d'eau, le manque de gestion des immondices qui sont automatiquement déversés dans les rivières et les canalisations d'eau sont les causes principales des inondations catastrophiques déplorées à Kinshasa. Alors que le mois d'avril s'annonce avec une pluviométrie très élevée, les environnementalistes plaident pour le curage urgent des rivières et canalisations d'eau, mais aussi la délocalisation des populations le long des rivières afin d'éviter de prochaines catastrophes. Pour en parler, nous recevons le chef du département des sciences et gestion de l'environnement de l'université de Kinshasa. Le professeur Thierry Tangou est interrogé par Michel Kifindangoy.
Professeur Thierry Tangou, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
La ville de Kinshasa est fortement frappée par des inondations qui ont occasionné des dizaines de morts, sans compter des dégâts matériels énormes. Qu'est-ce qui est à la base de ces inondations déplorées à Kinshasa?
Nous pensons bien que c'est l'occupation des lits du cours d'eau, de la rivière Ndjili notamment. Principalement, le non-respect des normes urbanistiques, des constructions anarchiques dans les lits de la rivière, l'implantation des activités anthropiques, cela a fait rétrécir les lits de la rivière et c'est tout à fait normal. La conséquence, c'est la sortie des eaux de son lit et de ses deux lits respectifs. Quand vous regardez du côté du quartier des Bonhommes, les espaces d'antan vides, aujourd'hui occupés par des habitations, et quand l'eau arrive, il voit normalement sa zone d'écoulement rétrécit et ça ne peut que déborder de façon incroyable et nous amener à ces divers dégâts. Voilà en quelque sorte la cause majeure ayant occasionné cette inondation. Et peut-être plus loin, la gestion des déchets également. Si nous considérons effectivement la rivière comme une décharge à ciel ouvert où nous pouvons tout mettre dedans, et comprenez qu'il n'y a pas de profondeur intéressante. Et cela peut aussi justifier les inondations, les sorties des eaux hors lit, et c'est tout à fait normal.
Le mois d'avril est le plus pluvieux, particulièrement ici à Kinshasa. Quelles sont les actions urgentes à poser pour éviter la reproduction des nouvelles catastrophes dans les jours à venir?
Les mesures atténuantes devraient aller logiquement dans le sens foncier, de commencer à libérer tant soit peu les lits de la rivière, peut-être les curages par rapport aux déchets, parce qu'à la délocalisation des habitations, il y a beaucoup de mesures qui vont être prises sur le plan environnemental et social, parce qu'il faut penser au plan d'action de réinstallation de toutes ces populations. On ne peut pas lotir n'importe où, on ne peut pas accepter certaines activités le long de la rivière, tout cela c'est très important.
Quels sont les risques sanitaires et environnementaux sur la population affectée par ces inondations?
Nous avons remarqué que ces eaux étaient des eaux vraiment polluées. Il y a là-dedans notamment beaucoup de germes pathogènes. En dehors de ça, peut-être qu'il y a des usines connectées à cette rivière et jettent des produits chimiques. Et tout cela, nous avons vu des populations passer dedans et vivre dedans et y rester pendant 2-48 heures et peut-être d'autres familles, ça sera une semaine. Il y a des risques chimiques biologiques importants qui vont amener à des situations déplorables sur la santé des êtres vivants. À cela, le centre d'excellence Coé-Séberen de la RDC donne sa contribution pour la gestion de ces aspects des risques afin d'aller vers un milieu durable qui nous éloignerait de ces risques sévères.
Et quelles sont les actions à moyen et à long terme que pourrait poser le gouvernement pour éviter de telles catastrophes dans l'avenir?
Je crois du côté du gouvernement, comme nous avons identifié le principal cause, l'occupation du lit de la rivière, je pense qu'on doit élaborer des politiques d'aménagement urbain, si ça existe autant le mettre en pratique, et aussi mettre à contribution la protection civile, qui certainement doit avoir une brigade d'intervention de gestion des catastrophes. Dans un temps raisonnable, le problème pourra être résolu partiellement et durablement dans le temps, lorsqu'on va aller beaucoup plus loin avec la délocalisation même des habitations.
Que recommandez-vous à la population kinoise pour qu'elle soit en mesure de prendre soin de son environnement et éviter de telles catastrophes?
La population doit être éduquée sur le plan environnemental. Voilà, je pense qu'avec cette base, la population elle-même va commencer à rendre son environnement salubre, à mieux gérer les déchets et également s'il y a une taxe derrière tout ça, s'il y a des sanctions légales, il y a des aspects réglementaires. Je crois que ça va ramener la population à respecter l'environnement. Mais lorsqu'on ne fait rien, quelqu'un jette n'importe quoi, n'importe où, il n'est même pas rappelé à l'ordre. C'est tout à fait normal qu'il y ait des poubelles publiques partout, des montants d'immondices partout.
Professeur Thierry Tangou, je vous remercie.
Notre invité s'entretenait avec Michel Kifindangoy. Est-ce la fin de ce journal mis en onde par Pierre Diassinois et supervisé par Pélé Kipelamondo? Merci pour votre confiance à la Radio de la Paix.